Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans cette édition de Écho de ma commune et de mon canton. Nous allons rester à Chartres aujourd'hui pour évoquer les programmations événementielles et sportives de la ville durant cet été. Nous avons retrouvé la liberté. Eh bien, profitons-en, profitons du plein air, du beau temps. Et au moment où je vous dis cela, eh bien, il pleut sur Chartres, mais c'est pas grave. Après la pluie, le beau temps, soyons-en sûrs. Cette programmation événementielle et sportive de la ville nous est tout simplement présentée par Laurent Luillery, conseiller municipal délégué à l'animation de la ville et à la politique événementielle, et par José Rollo, adjointe au maire en charge du sport et de la vie associative. C'est avec José Rollo que nous commencerons cette émission.
On a voulu conserver les activités qu'on faisait auparavant, malgré cette contrainte du Covid, hein, liée au Covid. En tous les cas, c'est pour ça que nous avons choisi ce compte base, le compte de l'été au stade des Babours, parce que c'est un cadre idyllique, une belle plaine de jeux, avec une accessibilité facile pour les parents, pour la pause, des pauses des enfants, et puis bon, où dans lequel nous, il y a toutes les activités pourront avoir lieu. Donc, en plus de ça, on a aussi les activités du mercredi qui se passeront sur le centre-ville de Chartres, hein, comme on le faisait déjà avant, sur les places Châtelet, Épars et Place des Halles. Et donc, avec tout ce qui est l'attrait du sport, les échecs, la capoeira, avec tous les clubs chartrains qui seront partenaires, nous, de ces activités qui seront intervenants aussi. Mais on aura aussi, surtout, une animation sur les MPT, donc les maisons pour tous, des quartiers des Clos et de la Madeleine, dans lequel il y aura ces animations. Il y en a vraiment tenu à ce que ces activités restent sur les Clos le matin et sur la Madeleine, pour que l'après-midi, les enfants qui le souhaitent puissent être véhiculés par les services de la ville sur les stades de Babours. Donc les parents qui veulent les emmener les emmèneront, mais nous on mettra un système de navettes de la ville pour pouvoir les véhiculer entre le stade des Babours et vice versa le soir à 17h30 sur les maisons pour tous.
Excellente nouvelle, c'est pas nouveau, mais il faut le redire, c'est gratuit, simplement il faut s'inscrire, c'est tout.
Tout à fait. Alors cette année, on a tenu à ce que la gratuité soit faite sur ces activités-là, parce que bon, c'est vrai qu'on vient de vivre une année assez pénible financièrement pour tout le monde et psychologiquement surtout. Et du coup, la seule contrainte de cette activité, de cette gratuité, c'est qu'elle est gratuite pour les chartrains les activités ne sont aussi accessibles qu'aux chartrains. Pourquoi ? Parce qu'on a 7 jauges aujourd'hui à respecter d'un certain nombre d'enfants par activité, et donc on ne pourra pas accueillir les gens de la comme on le faisait d'habitude, aux places restantes, sur les activités qui sont mises en place. Donc voilà, mais ça c'est une très bonne nouvelle. On a voulu aussi apporter ce geste aujourd'hui à la collectivité, aux enfants pour les vacances, et surtout pour aider les parents à avoir des enfants, pour ceux qui partent ou qui ne partent pas, mais d'avoir des activités sportives. Le seul regret, bien évidemment, c'est qu'on ne fasse pas la manifestation cet été sur la place des Épars, mais bon, c'est la contrainte dans laquelle on est aujourd'hui. Ce qu'on aura un petit peu en avant de ces 2 mois de sport vacances qui vont se dérouler entre le 5 juillet et 27 août, c'est ça démarrera le vendredi 2 juillet, donc sur la place des Halles, en partenariat avec le comité de basket de Reloir, donc un tournoi sur 3 jours, 3 par 3, donc avec une structure gonflable, des choses qui sont mises en place et des animations faites par le comité de Reloir de basket. Donc avant le démarrage le 5. Donc ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de jeunes des quartiers et non seulement. Et puis bon, là aussi, ça sera ouvert aux gens de l'agglo, enfin à tous les jeunes qui viendront. Nous avons aussi souhaité maintenir donc les terrains de pétanque sur la place des Halles, hein, qui seront là tout le temps et et qui seront ouverts à tout public, en plus des terrains de pétanque qui existent aujourd'hui à côté du kiosque sur la butte des Charbonniers. Alors, c'est bien sûr, c'est super sympa. Moi, je viendrai. Hein. Je suis venu l'année dernière, l'année d'avant. Je viendrai faire une petite partie de boule entre potes, entre famille. Et puis après, bon, on slappe un petit verre dans les terrasses qui sont en face. C'est aussi le but de partager ces moments de convivialité quand on a des espaces comme ça en fin d'après-midi. De se dire, allez, on se fait une petite partie. C'est lui qui perd et paye l'apéro. Et donc voilà, c'est la partie vraiment convivialité et bonne ambiance qu'on a sur la ville.
Et on a tous envie de revivre aujourd'hui. Juste une dernière chose, puisqu'on parle de sport, on voit bien, si on a regardé la télé hier soir, que l'équipe de France est en train de monter en puissance. Il se pourrait donc qu'on aille jusqu'au bout. Et la ville fera peut-être un petit quelque chose pour les fans de foot.
Oui, alors je vais parler un peu à la place de mon collègue Laurent Lunery, mais en tous les cas, oui, quand je vois la qualité du groupe de l'équipe de France, enfin, aujourd'hui pour moi, qui suis un passionné de football, j'étais moi-même footballeur, il n'y a pas d'équivalent au niveau de l'effectif dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas d'équivalent. Moi, j'ai une culture football. Hein, ça a été mon sport toute ma vie, le foot et la boxe. Et j'ai même été joueur, entraîneur, président d'un club chartrain. Et bon, en plus, j'ai une double nationalité. Je suis portugais, donc...
Ça va être dur la semaine prochaine, non ?
Non, mais je ne me fais pas de soucis parce que de toute façon, je gagnerai toujours. Donc ça, c'est l'avantage que j'ai. C'est que quel que soit le résultat, j'aurais gagné. Non, mais la France, ils sont 10 fois plus forts que le Portugal. Donc, il n'y a pas photo là-dessus. Mais vraiment, pas photo. Enfin, aujourd'hui, si l'équipe de France ne gagne pas le championnat d'Europe, alors ça reste du football. Hein. On a vu l'Espagne contre la Suède, 1-0-0. Enfin, voilà. Mais en tous les cas, enfin, ils sont archi favoris. Ils ont un groupe, mais que j'ai rarement connu sur ces dernières 30 années, même de l'époque des Gires, des Platini, des Trésors et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc vraiment. Alors, bien évidemment, on le disait tout à l'heure, en aparté, qu'on essaiera de mettre quelque chose en place, peut-être à partir des quarts, des demi et la finale, mais on le fera aussi sur un espace, je pense, un espace sportif, non pas sur le centre-ville, parce qu'il va y avoir des grosses concentrations. On en discutera avec mon collègue Laurent Lullery, mais je pense en tous les cas qu'on va faire une fan zone pour fêter ces belles victoires de l'équipe de France.
Chouette. Merci beaucoup José Rollo. On va aller peut-être dire deux mots avec Laurent Lullery, s'il est disponible, pour parler de culture et de loisirs. On va peut-être commencer par dire deux mots de Chartres Estival qui aura bien lieu dans un lieu de prestige.
Oui, c'est-à-dire que Chartres Estival, on a des contraintes qui sont évidemment liées à la jauge, évidemment à cette crise que tout le monde connaît, on va pas revenir dessus. Et donc on est obligé un petit peu de s'adapter et on va mettre ça sur les terrasses autres derrière la cathédrale, dans les jardins de l'évêché, avec une jauge maxime de 950 personnes. La seule contrainte, c'est que quand ça sera 950, on pourra plus faire rentrer personne. Donc ça, c'est un petit peu la contrainte qu'on aura, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et c'est la seule possibilité qu'on avait pour pouvoir les maintenir, donc on n'a pas hésité une seconde.
Vous le disiez, bon, les consignes, c'est de rester assis, etc. Mais évidemment, quand on écoute de la musique, du rock, etc., on reste rarement assis. Hein.
Bah, il y a le règlement, puis il y a ce qu'on peut en faire. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, c'est vrai que si les gens ils se mettent tous à danser, 950 personnes, essayer de les faire asseoir. Donc non, mais bon, après, à partir du moment où il y a les masques et tout ça, si on veut vraiment que les gens restent assis, qu'ils bougent pas, faut pas les faire. Enfin, moi, on sait très bien que les gens ont besoin de s'exprimer. On voit ce qui se passe déjà avec le foot. On gagne contre l'Allemagne hier soir. Il y a déjà des gens dans les rues. Donc, et puis les gens en ont besoin. Donc, c'est compliqué. Donc, on va essayer de maintenir au maximum et de faire ce qu'il faut pour que les contraintes soient respectées. Après, on n'est pas des magiciens non plus.
Du cinéma en plein air, probablement, c'est pas encore certain. On s'y achemine quand même.
Oui, on aimerait parce que c'est. Alors on a quelques petites contraintes qu'on va essayer de régler, mais on aimerait bien entendu pour une raison très simple, c'est que c'est gratuit et c'est que c'est familial. Donc les gens ont besoin aussi d'aller pique-niquer devant le cinéma en plein air et puis les gamins ils jouent, les parents regardent le cinéma et c'est un truc tellement sympa et familial que ce serait quand même dommage qu'on puisse pas le faire, mais on va faire ce qu'il faut pour.
Alors en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le feu d'artifice aura bien lieu, ce sera même 3 feux d'artifice, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un petit peu, on a toujours un concert avant le feu d'artifice. Cette année, le concert, même si je pense que sur l'hippodrome, on pouvait éviter de se mettre les uns sur les autres. Mais dans tous les cas, on va disperser ce feu, enfin le dispatcher en 3. Donc ça permettra à l'hippodrome d'avoir un feu d'artifice pour les gens qui sont sur la partie à côté de l'hippodrome. En Basse-Ville, Babour, et sur le terrain, l'école de l'IND, ce qui permettra un petit peu à tout le monde, normalement, de chez lui, de voir au moins un feu d'artifice, pour certains 3, en fonction d'où ils sont placés. Mais l'idée, voilà, à la même heure, à 23h, le 14 juillet au soir, on fera 3 feux d'artifice qui vont durer 10 minutes. et vous pourrez le voir de chez vous, donc c'est pas la peine après d'aller à l'hippodrome, ça sera fermé de toute façon, mais on peut se rapprocher pour ceux évidemment qui veulent, mais globalement voilà, c'était de dire on marque quand même le 14 juillet.
Nul n'est tenu à l'impossible, la fête de la musique n'aura pas lieu pour des raisons que vous allez nous détailler.
Bah après, si vous voulez, nous on a reçu une contrainte, enfin tout du moins une note du ministère de la Culture nous expliquant ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. C'est complètement impossible à réaliser. Alors moi, j'entends bien qu'il y a des gens qui soient déçus. Maintenant, s'ils ont une solution miracle, je suis preneur. On nous dit en gros qu'il faut 10 personnes maxi par groupe et que les autres doivent être assis. Donc pour ceux qui connaissent la fête de la musique à Chartres, c'est impossible. Donc à un moment, plutôt que de rentrer dans quelque chose et puis ça n'aurait pas été validé par la préfecture, si vous voulez, ils ont des contraintes aussi. Donc plutôt que de partir dans quelque chose qui est complètement intenable, on a pensé qu'il n'était pas raisonnable de la tenir.
Alors, il y aura des déambulations médiévales, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de reparler de la fête médiévale qui aura lieu l'année prochaine et, nous avez-vous précisé, en alternance avec la fête des Lumières.
Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on préfère concentrer toutes nos forces sur une belle fête une fois par an. Donc la fête médiévale aura lieu. Alors cette année, il n'y a rien parce que même la fête de Mire en septembre, 70-80 000 personnes dans les rues, faut même pas y penser. Donc la fête médiévale aura lieu à l'Ascension l'année prochaine, Pentecôte ou Ascension, lundi de Pentecôte, pardon, je suis trompé. Enfin, on vous redonnera la date, c'est pas très grave. C'est dans un an à peu près, voilà. Tout ça pour vous dire, oui, il y aura des déambulations cet été un petit peu pour permettre aux gens de comprendre que le médiéval, ça sera d'une année tous les deux ans, mais qu'entre les deux, il se passe quand même des choses. Il y a des appels aux bénévoles parce qu'il y a besoin de beaucoup de bénévoles dans cette association. Donc la ville va piloter avec l'association la mise en place de cette troisième fête médiévale. Et on aura des budgets complémentaires, c'est-à-dire qu'on aura vrai, même pour la fête de lumière, nous on arrivait un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire par rapport au budget qu'on avait, même s'ils sont conséquents, parce que la technique coûte très cher. Et ça permettra d'augmenter un petit peu les budgets en faisant une fête un an sur deux. Et on voulait être au rendez-vous de 2023 aussi pour la fête de la lumière, qui seront les 20 ans de Chartres Lumière.
Déjà. L'électro aussi, deux petits rendez-vous autour de la musique électro. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors oui, il y a une association qui va faire quelque chose le 13 juillet et le 15 août, qui est un moment... si vous voulez, on a voulu maintenir ça parce que dans tous les cas de figure, c'est quelque chose qui marche bien, c'est l'association PSK. Alors évidemment, en respectant encore ses contraintes, et puis on aura aussi, on est en train de discuter avec le festival aussi Paillasson, qui devait se tenir cette année et qui malheureusement, je pense, ne s'éteindra pas, mais qu'on voudrait monter un petit peu en puissance avec eux pour avoir un vrai rendez-vous musical festival, entre guillemets, ce qui nous manque un petit peu à Chartres.
Et pour finir, on en parlait avec José Rollo, peut-être un match diffusé à Chartres si l'équipe de France est en demi-finale ou en finale, pourquoi pas, rêvons un peu, on devrait pouvoir le voir sur écran.
Nous, c'est ce qu'on souhaite. Après, voilà, on sera aussi encore une fois contraint aux directives qu'on va nous donner en matière préfectorale. Évidemment, on aimerait le faire. Après, on a la crise sanitaire et on a aussi Vigipirate qui met des contraintes complémentaires. Donc, faut qu'on regarde si tout ça peut à un moment se mixer. Alors, il y a des phasenots qui sont gérés autre part. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose qui soit complètement immontable avec trois fois plus de personnel que, ouais, sinon, il faut le laisser dans les bars et les gens vont dans les bars. Mais j'aimerais bien qu'on fasse une fan zone. Donc, on a l'écran en plus, c'est facile pour nous de la faire. Après, on va attendre le 30 juin avec un peu la libération de tout ça en matière de contraintes pour savoir ce qu'on est capable de faire et surtout ce qu'on nous impose et savoir si dans le temps qui nous restera, on sera capable de le faire. Après, on sait toujours faire les choses rapidement si on a besoin. Après, il faut que ça soit montable, quoi.
Il faut que la France soit en finale. Merci. Merci beaucoup. Merci, Laurent. C'était Laurent Luilleri, conseiller municipal de Chartres, délégué à l'animation de la ville et à la politique événementielle. Tous les renseignements complémentaires sur les animations sportives, entre autres, sur www.chartres.fr, vacances-a-chartres.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand.
C'était le groupe californien Eagles, Take It Easy. La ville de Chartres, labellisée ville et métier d'art, a été choisie par Atelier d'Art de France pour organiser le jury de la région Centre-Val de Loire dans la catégorie création. Le jury s'est réuni mardi 15 juin pour remettre son prix au lauréat avant de connaître l'identité de celui-ci, je vous propose d'écouter Jean-Pascal Lheureux, qui est administrateur d'Atelier d'Art de France, mais lui aussi un artisan d'art ébéniste, si je ne m'abuse.
Je suis sculpteur ébéniste, en fait, et je travaille notamment des bois régionaux qui sont le frêne, le chêne et d'autres essences locales. Je fais du mobilier, de la sculpture contemporaine, voilà. Et je représente ici la présidente d'Atelier d'Art de France qui gère le concours d'Atelier d'Art de France au niveau régional et national, en fait.
Alors justement, c'est quoi les Ateliers d'Art de France ?
Alors, Atelier d'Art de France est un syndicat de professionnels métiers d'art, en fait, qui permet aux professionnels d'être reconnus au niveau national et international, qui a des échanges avec l'État et les institutions, en fait, pour permettre le développement économique de nos ateliers.
Parce que, et la lauréate le disait, faut pas se mentir, c'est quand même extrêmement difficile aujourd'hui de vivre de son artisanat d'art. C'est pas donné à tout le monde.
Alors, il y a tout un parcours, en fait, qui est complexe. Il faut quand même certain nombre d'années, en fait, avant d'acquérir la connaissance, avant d'acquérir le marché, de connaître toute cette, ce travail, en fait, en amont, en fait, avant de développer l'atelier. Et Atelier d'Art de France permet aussi cela, en fait.
J'imagine que ce qu'on appelle artisanat d'art couvre un nombre important de métiers.
Et nous sommes 281 métiers, en fait. Le mobilier, le verre, la pierre, la restauration et autres. Le concours est géré par Atelier d'Art de France, qui est le syndicat des métiers d'art, et qui va représenter, en fait, le secteur des métiers d'art et le défendre. Voilà. Et nous gérons actuellement, nous représentons 6000 ateliers, en fait, en France, dont 1600 adhérents.
Si vous deviez donner un conseil ou des conseils à un jeune qui souhaite, devenir un artisan d'art, quel qu'il soit, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a quand même des choses à savoir ?
Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est...
les écoles, les formations.
Il y a les écoles de formation. Il y a veiller aussi à ne pas faire que de la création, avoir un côté gestion d'entreprise qui est important, car malheureusement on constate que bien souvent on a beaucoup de techniques de création, mais il manque la partie économique et gestion d'une entreprise qui doit être aussi prise en compte. Et puis aussi il y a les formations qui disparaissent, puisque malheureusement l'enseignement national et l'État a plutôt tendance à recentrer sur les métiers de l'industrie, en oubliant un peu les métiers rares et les métiers d'art notamment.
Vous avez notamment parlé de la loi Avenir qui, c'est pas terrible pour vous.
Mais la loi Avenir, en fait, a mis en place, en fait, l'État a mis en place cette loi et a modifié légèrement tout ce qui était formation professionnelle, et avec notamment des pertes d'heures d'atelier, des pertes d'heures en création, en fait. On se retrouve plus à avoir à faire des cours qui vont valoriser plus l'industrie et les grandes maisons de luxe, qui, eux, ont besoin de salariés, pas de professionnels, en fait.
Eh bien, nous espérons tous, avec Jean-Pascal Lheureux, administrateur d'Atelier d'Art de France, que l'État finira par se pencher sur l'avenir de l'artisanat français, de l'artisanat d'art, entre autres. Faisons connaissance à présent avec le lauréat de ce prix régional création du concours Atelier d'art de France. Le lauréat est une lauréate. Elle s'appelle Julie Transin. Elle vit et elle travaille à Saint-Pierre-des-Corps. Et elle nous présente l'œuvre qui lui a permis de triompher, une œuvre qui s'appelle Signature.
Signature représente la combinaison de mes expériences que j'ai pu avoir avec les différentes maisons dans lesquelles je suis passée dans les maisons de luxe et représente en fait l'aboutissement d'un travail, en tout cas à l'instant de un instant I, on va dire, du travail que j'accomplis en maroquinerie et qui est bien sûr évolutif, j'espère encore dans l'avenir.
Si je dis que c'est un sac à main, c'est réducteur ?
Non, non, pas du tout, c'est un sac à main, il n'y a aucun problème.
Comment vous êtes devenu artisan d'art ? Donc vous avez fait, vous avez travaillé dans des grandes maisons, c'est ça, de luxe. Racontez-nous votre parcours. Comment on devient finalement un artisan d'art ? Comme ça, vous faire quelle école ?
Il y a plusieurs parcours. Soit on va avoir le parcours traditionnel en CAP, soit on peut rentrer directement dans les maisons de luxe par des biais de formation en interne. Et c'est comme ça que j'ai commencé la maroquinerie directement en formation en entreprise par le biais de la maison Hermès. Et après, maintenant, je fais de la formation pour différentes grandes maisons. Sur laquelle j'interviens en tant que formatrice.
Alors, c'était une évidence pour vous de faire de la maroquinerie lorsque vous étiez encore plus jeune ?
Au départ, j'ai fait du travail plus de costume en autodidacte. J'ai toujours été portée sur la création. J'avais mis du temps à trouver ce vers quoi je voulais aller. Et cette formation a été une révélation au moment où je l'ai faite, en fait.
Et donc, après être sortie de ces grandes maisons, vous avez décidé de faire vous-même votre business, si j'ose dire.
Oui. Alors, j'ai commencé effectivement il y a 5 ans à l'atelier, aux ateliers de la maurinerie, à Saint-Pierre-des-Corps. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de publicité pour les ateliers parce que c'est un lieu à visiter absolument. Donc un lieu pluridisciplinaire autour de différentes pratiques artistiques et artisanales, des associations. Donc on fait des portes ouvertes soit en mai, soit en septembre, selon là en ce moment avec le Covid, on va voir comment ça va tourner. Mais allez voir, ça vaut le détour. Et donc c'est grâce à ce lieu de mécénat que j'ai pu débuter avec un loyer très accessible par le biais du mécénat avec Annie Catla, qui m'a permis de développer mon activité et de pérenniser au fur et à mesure les choses. Voilà.
Et aujourd'hui, vous arrivez à commercialiser vos créations ?
Oui, alors ça se passe plutôt bien, notamment donc il y a ces deux volets, la formation professionnelle en entreprise que je donne, et à côté de ça, mes productions qui sont principalement sur du sur-mesure. Je travaille pour des restaurants, je travaille pour des clients particuliers qui demandent des commandes sur-mesure directement à l'atelier.
C'est-à-dire que vous ne faites pas que des sacs à main. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites au total ?
Alors je fais, par exemple, là, je fais des cartes de vin sur mesure, je vais faire du luminaire, des assises aussi, ça peut arriver de faire du mobilier. Donc ça, c'est des collaborations soit avec du métal, soit avec du bois. Donc ça va dépendre des rencontres et de la rencontre des matières par rapport à ça. Et effectivement, du sac à main, du bracelet, des bijoux.
Vivre de son art lorsqu'on est un artisan, c'est le parcours du combattant, c'est difficile ?
Alors, on va pas se mentir, les débuts sont toujours difficiles. Moi, comme la plupart des artisans, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, et on a tout à créer. Donc le réseau, les compétences, la communication, enfin tout demande beaucoup d'efforts, mais c'est un travail d'acharné. Et une fois qu'on commence à sortir un peu, c'est chouette, voilà.
Ce prix, ça va vous aider ?
On verra peut-être, j'espère. On verra.
Eh bien, grand bravo à Julie Transin pour ce superbe sac à main baptisé Signature. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission Écho de ma commune et de mon canton. Désormais, je ne vous retrouverai qu'à la rentrée, enfin, pour cette émission, mais nous continuerons de nous voir, de nous parler, de nous entendre tout au long de cet été. Voilà, je vous embrasse et surtout, restez fidèles à l'écoute des programmes de Radio Rentiel, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.